Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Bienvenue au balado Urbania.
Ah! Ben bonjour, Valérie Simard.
Bonjour, Hugo.
L'autrice de Une année de détox vestimentaire publiée aux éditions La Presse tout récemment, c'est début janvier, fait que c'est tout chaud là encore.
C'est tout chaud.
Et là, t'es partout. Et on va en jaser parce que c'est quand même une expérience immersive dans ton corps. Puis je te connais très bien, c'est ce que je vais assumer en premier. On est des amis, donc mon jupon dépasse. J'ai pas le choix de dire que c'est un excellent livre, c'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie. Non, mais en même temps, j'étais pas le public, on va en jaser là. Mm-hmm. Mais c'est une expérience, puis te connaissant, te mettre en scène comme ça dans quelque chose, c'est vraiment pas ton genre.
On est très différents là-dessus.
Moi, c'est vraiment mon genre, mais toi, quand j'ai vu que tu faisais un truc immersif pendant un an, j'ai trouvé ça, j'ai fait « OK, là, t'as dû te faire violence un petit peu ».
C'était un aussi grand défi que de pas acheter le vêtement pendant un an, oui, et de me mettre en scène aussi dans le processus de rédaction. Mon éditrice, on a eu des discussions, là, elle a beaucoup poussé pour que je mette plus de moi parce que c'est vraiment pas naturel.
Je le sentais, mais ça reste très sobre. Tu sais, c'est pas, tu mets pas de l'avant toi-même qui vis des difficultés, c'est aussi... À travers ton expérience, écoute, on aborde, écoute, on remonte à la préhistoire, l'importance du vêtement, son pouvoir économique, tu sais, c'est immense. Puis il y a un passage intéressant, à un moment donné, tu dis, tu sais, il faut arrêter de voir ça comme un monde féminin, puis tu sais, le monde du linge, puis tout ça, c'est une industrie puissante qui vaut extrêmement cher. Et c'est de ça qu'on va jaser, mais ma première question, écoute, je pense que ça va être la première que tout le monde t'a demandé à date, mais tu as commencé ça le 1er avril 2022. On dirait quasiment une joke, mais ça vient oui. De où, ce projet-là?
Ça a grandi en moi pendant longtemps. Il y a eu un déclic, là, je vais t'en parler, mais pour remonter peut-être un petit peu dans le temps, j'avais entendu parler de ce défi-là en 2017-2018. Là. Il y avait eu un article dans le New York Times, une Québécoise aussi, Alexandra Graveline, que j'ai interviewée pour le livre, qui s'était lancée ce défi-là. Elle avait été dans les médias pour en parler. Puis à ce moment-là, j'avais regardé ça avec curiosité, mais je me sentais pas vraiment concernée parce que je me disais, je consomme pas tant que ça de vêtements, c'est pas pour moi. J'ai pas à revoir ma consommation. Mm. Puis là, en commençant à m'intéresser à l'industrie de la mode et à son impact sur l'environnement, puis dans le cadre de mon travail à la presse aussi, je couvre un peu la mode locale. J'ai écrit sur l'éco-blanchiment. Fait que tout ça m'a commencé à me faire prendre conscience de l'impact de ma consommation, qui était quand même moyenne, mais qui était quand même plus grande que mes besoins. Puis là, je me suis rendu compte que j'essaie de réduire mon empreinte carbone. Je fais du vélo, je suis quasiment végétarienne, je mange des bibittes, mais j'achetais trop de linge.
OK. T'es dans la secte des grillons?
Oui.
OK.
Ben, à l'occasion, là, mais oui, c'est ça. Je suis surmontée ce dédain, là, avec mon fils. On a fait une activité de dégustation d'insectes, puis ouais.
Bon, c'est ça. Fait que pour moi, t'avais pas l'impression que t'étais une fashionista,
pas du tout.
Tout ça, mais quand même, tu suivais les modes, t'aimais ça magasiner.
Oui, mais je faisais des achats impulsifs. C'est que j'en achetais pas peut-être, tu sais, 500-600 $ par mois comme Alexandra à qui j'ai parlé. Là.
Ouais.
Mais je pouvais facilement tomber sur une publication sur Instagram, trouver ça beau, l'acheter, puis ça arrivait chez nous quelques jours après.
Concrètement, là, une année de détox vestimentaire, c'est que tu n'achètes absolument rien pendant un an de neuf.
Oui, mais les règles varient. Là, je me suis rendu compte, ce n'est pas un défi officiel. Là, tu ne t'engages pas comme le défi 28 jours sans alcool.
C'est un défi que tu te lances toi-même.
C'est un défi que tu te lances toi-même. Puis il n'y a pas vraiment de paramètres non plus. Tu t'adoptes tes propres paramètres. Puis moi, au départ, je m'étais dit, je n'achèterai pas de vêtements neufs parce que je voulais voir aussi avec toutes les friperies là, qui poussent en ville, les applications aussi de revendre. C'est vraiment plus facile d'acheter des vêtements usagés. Fait que je voulais voir à quel point c'était facile. Fait qu'il y avait aussi ma démarche journalistique, c'était ça un peu parce que je me disais, pas acheter de vêtements et je vais raconter quoi? Tu sais, c'est mon marasme chez nous à ne pas pouvoir consommer, mais au-delà de ça, j'avais comme besoin d'une expérience pratique. Fait que c'est à la base, je me permettais des vêtements d'occasion. Et là, en parlant à des filles qui ont fait ce défi-là, puis en me rendant compte aussi comment le marché d'occasion est une bonne solution, mais pas une solution miracle non plus, puis comment on peut surconsommer aussi des vêtements usagés. Après quelques mois, j'ai décidé de tout couper puis de ne pas acheter de vêtements du tout.
Même pas des sous-vêtements, tout ça. Donc, tu as appris, à un moment donné, on le voit dans le livre, tu as appris même à rapiécer toi-même des vêtements, le tricot, tout ça.
Oui.
OK.
Je savais quand même recoudre un trou, réparer un bas, là, mais je prenais pas le temps de le faire souvent, là, où ça s'empilait dans un coin, puis à un moment donné, je réparais ça, puis finalement, non. Là, j'avais pas le choix parce que je pouvais pas m'en acheter d'autres. Mais aussi, avant, j'avais prévu en amont de l'année, tu sais, d'avoir assez de sous-vêtements pour passer l'année. Puis je me dis, au pire, je ferai cette exception là, si jamais il arrive quelque chose.
Puis 2022, on sortait ou pas loin de la pandémie. Fait que, tu sais, c'était comme un moment aussi, ça ajoutait sûrement une couche de difficulté. C'était un moment où tu as le goût de te garrocher dans un magasin parce que tu es écœuré. Ça fait 2 ans que tu es en jogging.
C'était un peu pour ça, là, pourquoi je l'ai fait à ce moment-là, c'est qu'on lisait dans les médias des entrevues avec des stylistes, des propriétaires de magasins au centre-ville qui disaient « On est content, les gens viennent dans les magasins, ils ont besoin de s'acheter des nouvelles tenues parce que ce qu'on portait avant la pandémie, faut faire une rupture avec ça. T'sais, on veut des choses plus confortables. » Mais moi, je n'étais pas habillée en tailleur là, avant la pandémie. Fait que je me disais « Pourquoi, moi, j'ai envie de m'acheter des nouveaux vêtements alors que... Mon style n'a pas tant changé, mes besoins n'ont pas changé non plus, mais il y avait comme cette volonté de rompre avec cette période noire qu'on avait traversée, puis pour plusieurs, ça passait par aller magasiner.
Oui, effectivement, même pour moi. Écoute, je veux juste voir de où ce qu'on partait. T'sais, toi, bon, t'as beau dire que t'étais pas une fashionista, quand même, je sais pas combien tu consacrais ton budget. T'sais, moi, je magasine, je suis sûrement un cliché de gars, je magasine une fois par année. Je rentre dans un magasin, puis je donne 1 000$, puis je m'habille pour l'année. Mais toi, ça ressemblait à quoi, mettons, un budget vêtements annuel pour quelqu'un de pas trop hardcore, mais quand même?
Oui. J'ai fait le calcul avant la pandémie, qui était une année plus normale. Puis j'avais dépensé en 2019 $2 000 pour moi, puis mon fils aussi, parce que c'est un peu moi qui est responsable de son habillement. Ce qui est quand même à peu près dans la moyenne, parce que les ménages canadiens, là, selon Statistique Canada, c'est autour de 3 300 $ puis,
par personne.
Par ménage de 2,5 personnes en moyenne. Fait que considérant que mon chum consomme moins là, que moi, puis on est 3 chez nous, je me disais, ben, je suis à peu près dans la moyenne des Canadiens.
Oui. Fait que c'est pas non plus astronomique, mais ça reste que c'est une vraie expérience.
Oui, et puis j'avais pas besoin, c'est vrai, cette année-là, je me suis pas acheté de manteau, je me suis pas acheté de bottes. Tu sais, c'est une grosse dépense là, quand t'achètes un manteau qui est quand même de qualité, c'est 1 000$ en partant.
Il y a aussi, t'as embarqué ton pauvre enfant cobaye dans l'expérience, donc vous l'avez fait à deux, t'as voulu rajouter une couche de difficulté.
Oui, parce qu'au début, moi, je pensais que ce serait facile pour moi, puis là, je me disais, faut que j'élève la barre de ce défi-là, fait que j'ai ajouté un enfant, parce qu'aussi, on entend souvent, quand on parle d'adopter des comportements plus éco-responsables, les gens disent « Ouais, mais moi, j'ai une famille, c'est plus compliqué. » Fait que là, je voulais montrer que c'était pas nécessairement plus compliqué de le faire avec un enfant. Par contre, lui grandit, fait que c'est sûr qu'on n'a pas eu le choix d'aller en friperie de temps en temps. Mais en gros, on a passé l'année sans acheter le seul... item neuf que j'ai acheté pour lui, c'est des chaussures parce que j'en trouvais pas. Fait que j'ai dépensé pour lui 255 $ là, avec, incluant un habit de neige, des chaussures, un habit de neige usagé. Fait que c'est quand même beaucoup moins que ce que j'aurais dépensé en une année régulière là, pour habiller un enfant de 5 ans.
C'est sûr. Ça te demande quand même une plus grande... Tu sais, c'est facile. On est à un clic de consommer. Fait que ça te demande quand même de faire des recherches, sortir, trouver des vêtements de seconde main, des bazars, des espèces de switch and...
Oui, switch and bitch.
Switch and bitch. Ben, c'est ça, donc, de trouver Renaissance et compagnie. Fait que c'est plus tough.
C'est plus de temps, oui, pour certains. Quand tu cherches quelque chose de spécifique, le défi est grand. Parce que je cherchais une casquette, par exemple, là, mais ça m'a pris 2 mois à trouver une casquette. Finalement, c'est une collègue qui m'en a donné une parce que j'arrivais pas à trouver la bonne taille. Puis c'est pas nécessairement les choses que des gens revendent en premier ou donnent. Fait que oui, des fois, il y avait cette frustration-là de devoir passer beaucoup de temps pour chercher quelque chose en particulier que je pourrais juste acheter en 30 secondes sur Internet.
Le défi commence. On va revenir au punch du défi tantôt. Mais en chemin, ce que je trouve vraiment intéressant dans le livre, c'est toutes les rencontres que tu fais, que même quelqu'un qui consomme peu comme moi, j'ai appris une tonne de choses sur l'impact environnemental qu'on sous-estime. Je pense que tout le monde sait que c'est pas bon pour l'environnement, mais là, au moins, c'est expliqué, il y a des chiffres, puis c'est concret. Et même le point, les rencontres que tu fais aussi avec des gens qui magasinent, c'est vraiment des gens qui ont le défi pour oui. Elles, ça avait l'air d'être vraiment plus difficile. Là. Des gens qui dépensaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en vêtements, des influenceuses qui deviennent des influenceuses différentes, là, avec une vocation sociale. Et un point de départ, c'est ce qui s'est passé au Bangladesh pour toi. Je ne sais pas si tu peux me résumer un peu c'était quoi, puis pourquoi ça a eu un impact dans ta démarche.
Oui, là, on remonte dans le temps. Là, en 2013, il y a eu l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, qui était un endroit où, une usine où beaucoup des vêtements étaient fabriqués là, en sous-traitance pour des grandes marques. Il y a 1100 personnes qui sont décédées là-dedans. Puis pour ça a été, je pense, pour les consommateurs occidentaux, là, pour nous, la première prise de conscience des conditions dans lesquelles nos vêtements sont fabriqués. Et à l'époque, il y a des marques là, qui avaient été nommées comme étant comme faisant affaire avec cette usine-là. J'avais comme plusieurs tenté d'éviter ces marques-là le plus possible, mais...
Après, par acquis de conscience?
Oui, il y avait comme un mouvement de boycott, si on veut, mais, ouais. Mais c'est sûr qu'il y avait toutes d'autres marques qui étaient en périphérie, dans l'industrie de la mode rapide, qui probablement faisaient affaire avec des usines qui travaillaient dans les mêmes conditions, puis on s'est comme un peu rabattu sur d'autres marques sans finalement prendre conscience que c'est le modèle au complet là, qui est à revoir. Puis après, j'avoue qu'un peu comme tout le monde, je suis retournée à ma vie de consommatrice, puis j'ai continué à acheter des vêtements sans trop me poser de questions, en évitant le Bangladesh. Mais pourquoi le Bangladesh serait moins pire que la Chine? Ou c'était pas très cohérent nécessairement mon raisonnement. Puis là, il y a les photos du désert d'Atacama en 2021 qui ont été prises par l'agence France Presse, là, qui pour moi ont été le déclic là, aussi de cette prise de conscience-là. On voyait des piles de vêtements, certains étaient neufs avec des étiquettes dessus.
Ça, c'était comme un genre de cimetière de vêtements neufs, là.
Oui, neufs et usagés aussi, mais beaucoup neufs, des invendus, des marques.
Accord avec l'étiquette.
Accord avec l'étiquette ou des surplus des organismes de bienfaisance qui n'arrivent pas à écouler tout le stock qu'ils reçoivent. Fait que c'est exporté dans des pays du Sud comme au Chili, en Afrique. Eux, là-bas, le marché de la revente est saturé aussi. Puis ils veulent des trucs à la mode aussi. Il y a un choix maintenant pour tout le monde, là. Fait que c'est disposé dans des dépôts sauvages. Ils n'ont pas les infrastructures de gestion de déchets comme nous. Fait que pour moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience de tout l'impact de ma consommation vestimentaire dans les dernières années.
Puis j'imagine qu'on ne peut pas revenir de ça, tu sais, dans le sens qu'une fois que tu as tout appris ces choses-là, c'est difficile après de revenir comme avant puis de commencer à magasiner frénétiquement sur toutes sortes de sites en ligne.
Pour moi, c'est impossible. Mm-hmm. Puis je pense que les filles à qui j'ai parlé aussi, qui sont passées par là, sont pas retournées à leur vie d'avant.
Ouais. Mettons qu'on veut se donner... Quand on pense se donner bonne conscience en allant chez Renaissance, en allant donner des vêtements, ça ne veut pas dire non plus que ces vêtements-là vont être revendus à des gens qui en ont besoin. Ça se peut que ça finisse dans ces endroits-là, dans d'autres pays, jeter carrément.
Malheureusement, oui. Ouais. Ils ont des surplus, les organismes de bienfaisance. Puis je les ai vus, là. Je suis allée... au centre de liquidation de Renaissance ou dans l'entrepôt, on voit ce qui est prêt à partir pour l'exportation. Là. Fait que finalement, oui, on pense qu'on se donne bonne conscience, comme tu dis, mais je pense qu'à la base, il faut se questionner quand on fait l'achat au départ puis qu'on se dit pas, ben si ça me fait pas, je vais aller le déposer chez Renaissance, puis ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre.
C'est ça, c'est pas une fin en soi.
Il n'y a pas de garantie.
Il y a, j'imagine qu'il faut faire un peu d'aveuglement. T'sais, on a beau avoir une bonne conscience sociale dans un paquet de niveaux, composté, recyclé, ainsi de suite. Il faut faire un peu d'aveuglement volontaire lorsqu'il est question de vêtements, parce que moi, je vais chez Simon, où les gens vont dans des boutiques. En partant, t'encourages des gens qui n'ont pas des bonnes... À la base, c'est des gens qui fabriquent ça, qui n'ont pas des bonnes conditions de travail.
On peut faire des meilleurs choix que d'autres. On peut acheter des vêtements qui sont faits ici. Si on veut encourager des meilleures conditions de travail. On peut acheter des vêtements en fil naturel si on veut éviter que nos vêtements émettent des microplastiques dans l'océan. Mais à la base, sans rentrer dans les détails puis sans entrer dans des analyses de cycle de vie de quel vêtement est moins dommageable que d'autres, ce qu'il faut faire, c'est pas si compliqué, là. C'est acheter moins, choisir mieux, puis faire durer nos vêtements. Puis quand on atteint ces trois points-là, ben on a déjà fait un grand pas.
Mais c'est des choix qui sont faits en fonction de la durée puis l'espérance de vie de ton vêtement plus que quelque chose d'un peu plus clinquant, tape à l'œil, qui va durer une fois ou deux.
Oui, la durabilité du vêtement. Ça, on a perdu ce savoir-faire-là de savoir c'est quoi un vêtement qui va être capable de durer dans le temps. Mais aussi, les experts parlent de durabilité émotionnelle, donc de choisir un vêtement auquel on va être attaché pendant longtemps, que ça ne va pas être une fois pour le party de bureau, puis après ça, on va le jeter. Fait que c'est ça un peu la clé. Mais aussi, tu sais, on parle beaucoup de consommation puis de consommateurs, mais il faut éviter de mettre la pression trop sur les consommateurs aussi, parce que l'industrie est responsable en partie de notre surconsommation parce qu'elle surproduit puis elle est très peu réglementée. Alors, tant que le modèle ne va pas changer, même si on réduit à l'échelle individuelle, oui, ça a un impact, mais il faut qu'à plus grande ampleur, il y ait des actions qui soient prises.
Puis encore aujourd'hui, on est quand même en 2024, mais la pression, c'est encore sur les épaules des femmes. Moi, si je porte un T-shirt à télé pendant 10 fois, personne ne va remarquer, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de femmes qui reçoivent des critiques, des commentaires sur comment ils sont habillés, de ne pas s'habiller de la même façon. Il y a un courant, tu le documentes, mais il y a un courant de gens qui décident de s'en sacrer un peu de ça.
Oui, mais c'est quand même c'est difficile pour les femmes aujourd'hui qui sont à l'écran, qui sont dans l'œil du public de pas porter attention à ses vêtements ou même de reporter un vêtement plusieurs fois. Mais ce qu'on me dit, les filles qui font de la télé, si la tenue est trop voyante, tu peux pas la reporter la semaine d'après à une autre émission. T'sais. Alors qu'un gars peut arriver avec une chemise noire puis un jeans puis porter pas mal tout le temps ça. Puis à la limite, ça va être « Ah, il y a un style. » Tu sais, Steve Jobs, il a trouvé son style. Mais pour une femme, c'est beaucoup plus compliqué.
Mark Zuckerberg, l'expérience de tes collègues de la presse, justement, qui se sont habillés en Mark Zuckerberg pendant une couple de semaines, T-shirt, jeans, puis les gens n'y ont vu que du feu, finalement.
Non, c'est ça aussi. Moi, c'est la réflexion que j'avais, c'est à quel point on pense que les autres vont remarquer, alors que les autres, ils s'en foutent peut-être un peu plus qu'on pense. Mais c'est sûr qu'à l'écran, c'est différent, mais dans la vie de tous les jours, je pense qu'on porte beaucoup attention à comment on est habillé, mais est-ce que vraiment notre entourage et collègues remarquent tant que ça?
Avant que tu fasses ta détox, est-ce que tu étais cette personne-là qui t'étais devant ta garde-robe puis tu capotais avant un party, avant un événement, avant un mariage? C'était pas facile?
Oui, je suis encore cette personne-là.
Okay.
Qui sait pas quoi mettre le matin puis qui peut se changer 2-3 fois parce que ça fonctionne pas. Ça, la détox m'a pas guéri de ça, mais je pense aussi que... C'est ça. Je pense que c'est un poids aussi supplémentaire pour les femmes, mais...
De ne pas s'habiller de la même façon si tu travailles le jour, tu as un party le soir. De penser à ça, honnêtement, je pense jamais à ça, ou presque. Tu t'habilles parce que tu es habillé comme ça, tu ne changes pas.
Ouais.
Mais ça, c'est quelque chose, une pression que vous vous mettez...
Je pense que c'est une pression qu'on se met plus que les autres nous mettent, en fait.
Une partie qui est intéressante, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, c'est le nombre de fois qu'on porte un vêtement Il y a une moyenne, il y a des statistiques. On parle de. Des fois, c'est 7 fois un morceau de vêtement. C'est vraiment documenté?
Bien, c'est documenté, mais c'est un sondage qui est quand même dont la méthodologie a été un peu contestée parce que souvent, les médias ont tendance à reprendre des chiffres aussi puis à les utiliser comme. Parce que c'est un peu spectaculaire. Puis ça, c'est un sondage qui avait été mené, en Angleterre, auprès de tant de personnes. Puis la question est un petit peu alambiquée. Fait que finalement, le 7 fois, faut prendre ça avec des pincettes.
Okay.
Mais il y a une étude qui a montré qu'on porte nos vêtements 2 fois moins longtemps qu'avant. Ça, c'est aussi symptomatique de la surconsommation. Mais combien de vêtements, moi, j'ai acheté et j'ai porté 1 ou 2 fois? Quand même pas mal. Puis je pense que c'est le cas de plusieurs personnes.
As-tu réalisé, quand tu as fait ta détox, que finalement, tu avais plein de linge, que tu avais complètement oublié l'existence?
Oui. Ouais, j'ai calculé à la fin, j'avais 214 morceaux de vêtements dans ma garde-robe.
214, ouais. OK.
Excluant là, les sous-vêtements, les manteaux, les bottes, c'était juste pantalon, top, robe, 214. Puis j'en portais... Pendant mon année, là, moi, je me disais, la détox, ça va être l'occasion de reporter des vêtements que j'ai pas reportés depuis longtemps, de découvrir des affaires. Puis finalement, pas tant que ça, parce que j'ai porté... 89 vêtements, donc moins de 50 % finalement.
Quand même, OK.
Ce que je portais pas avant, la plupart, je ne me suis pas mise à les porter plus. Tu sais, c'est que je portais plus souvent les mêmes vêtements. Puis là, après, ça m'a amené à réfléchir, bien, pourquoi ce vêtement-là, je l'aime puis je l'ai porté parce qu'il est confortable, parce qu'il correspond à mon style, parce qu'il n'est pas passé date.
Ouais.
Fait que ça oriente aussi mes nouveaux choix maintenant.
Valérie, une année de détox vestimentaire aux éditions La Presse qui est en librairie depuis le mois de janvier. Merci infiniment. Il y aurait beaucoup de choses à dire de plus, mais on fera ça une autre fois tous les deux autour d'une bière.
Merci, Hugo.
Merci.
C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.